Et bonjour, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Eau de Radio 91.3 dans cette émission Questions d'actualité tous les jeudis entre 19h et 20h et rediffusée les lundis et les mercredis. Alors l'avant-dernier jeudi du mois, c'est une émission Chantier de la mémoire et aujourd'hui c'est du droit de vote des étrangers que nous allons parler. Donc dans certains pays, le droit de vote et d'éligibilité est conditionné par la possession de la nationalité du pays en question. D'autres, pour des motifs divers allant du principe révolutionnaire américain « no taxation without representation », désolé pour l'accent, pas de paiement d'impôt sans droit de regard sur la façon dont cet impôt est dépensé, ou encore une conception d'une citoyenneté supranationale, ou encore un encouragement à l'immigration par des nouveaux territoires. Certains pays donc ont décidé à un moment de leur histoire d'étendre à des degrés divers et dans des conditions diverses ces droits, à tout ou partie des résidents étrangers sur leur territoire. Alors le débat sur le droit de vote des étrangers existe dans de nombreux pays, notamment au sein de l'Union européenne. En France, il existe depuis plus de 30 ans. Il a été relancé récemment par le Parti socialiste. Nous allons déjà déchiffrer un peu la loi française grâce au regard de Lucille Hugon, qui est avocate et membre de l'Institut de défense des étrangers, que nous avons pu interviewer juste avant cette émission. Et puis nous sommes en présence de Frédéric Alfos, président de l'ASTI Bordeaux. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude Guichenet de la Ligue des droits de l'homme, bonjour.
Bonjour de Radio.
Et puis Jean-Christophe Parseiller, secrétaire du collectif pour l'égalité des droits Rive Droite, bonjour.
C'est ça, bonsoir.
C'est ça, bonsoir. Et puis Abdel à mes côtés pour animer cette émission. Alors peut-être d'abord...
Bonsoir,
Bonsoir Abdel. Donc d'abord un petit retour peut-être sur l'histoire l'histoire sur le droit de vote lui-même. Donc avec d'abord le suffrage universel masculin des plus de 21 ans qui a été adopté en 1848, puis en 44 étendu aux femmes et aux indigènes des colonies en 46, puis plus de 18 ans après, puis au plus de 18 ans en 1974, et donc ce qui exclut depuis les résidents étrangers. Donc il y a eu un élargissement aux étrangers pour les élections locales qui a été une revendication reprise par François Mitterrand dans ses 110 propositions en 1981.
C'est la 80e proposition, exactement.
Proposition. Mmh. Et puis qui n'a finalement jamais été appliquée. Vous avez vécu, vous, cette période, Jean-Claude Guichenet ?
Oui, je voudrais apporter une nuance. La nuance étant que les ressortissants européens ont droit de vote aux élections
voilà,
locales.
Voilà, j'allais y venir depuis le traité de Maastricht.
Depuis le traité de Maastricht 92. Et effectivement, là, il y a une première faille dans l'égalité au regard des droits, c'est que certains étrangers en France ont droit de vote et d'autres n'ont pas droit de vote.
Tout à fait. Et donc, une inégalité déjà assez probante. Et c'est d'ailleurs ce qui a été soulevé par ce traité-là. Et alors, autre chose qu'on ne sait pas forcément, c'est une petite page d'histoire et qui va être établie tout de suite par Lucille Hugon. C'est qu'en fait, la France a déjà permis le droit de vote aux étrangers, et ce, il y a plus de deux siècles. On l'écoute d'abord et ensuite on en parle.
Alors, il faut savoir qu'il y a eu un précédent en fait constitutionnel hein, de droit de vote des étrangers en France, hein, parce que la Constitution donc montagnarde en 1793, elle contenait un article 4 qui disait que tout étranger âgé de 21 ans accompli, domicilié en France depuis plus d'une année, donc elle posait une condition quand même de résidence, vivant de son travail ou ayant acquis une propriété, avait le droit de vote en France en fait. Donc il y avait déjà un précédent, donc c'est pas quelque chose qui paraît complètement aberrant.
Et alors ce précédent qui date
en 1793, donc voilà. 1793, la Constitution montagnarde. Voilà, c'était un précédent, ça c'était un peu pour l'anecdote, mais alors le droit actuel en France, c'est que pour les élections nationales, seuls les ressortissants français, donc titulaires de la nationalité française, ont le droit de vote.
Voilà, là, on en est là aujourd'hui. Mais alors, entre 1793 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette loi a été appliquée, puis a été finalement annulée ?
Abandonnée, oui, elle a été rapidement, très rapidement abandonnée, et depuis lors, les étrangers n'ont pas le droit de vote. Après, je vais nuancer un petit peu, parce que certains étrangers ont le droit de vote en France, vous le savez. Je pense notamment aux ressortissants communautaires, puisque aujourd'hui en France, les ressortissants communautaires, donc les citoyens de l'Union européenne qui résident en France, peuvent participer donc à certaines élections, les élections municipales et les élections européennes, dans les mêmes conditions que les électeurs français.
Voilà, et donc ça depuis le traité de Maastricht de 92.
Tout à fait. Oui, oui.
Alors, dernièrement, le Sénat a adopté, donc le 8 décembre 2011, par 173 contre 166, et à l'issue d'un débat assez houleux, une proposition de loi de la nouvelle majorité de gauche accordant le droit de vote aux élections municipales aux étrangers communautaires. Alors, quel est l'avenir de cette proposition de loi, selon vous ?
Alors, il faudrait qu'elle soit définitivement adoptée d'abord, hein, ça c'est donc pour l'instant on est au stade de la proposition, donc soit par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale plus le Sénat, ou soit par référendum. C'est aussi possible de faire appel au référendum dans ce cadre, donc il reste une ultime étape à franchir hein, pour que cette disposition entre dans le droit positif.
Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Des réactions à ce qui a été dit par Lucie Lugon ?
Mais effectivement, il y avait cette exception de la Constitution en 1793, hein, bon, on ne va pas relire l'article, mais effectivement, y compris si on nourrit un vieillard, c'était dans la disposition de l'article, on pouvait avoir bien sûr le droit de vote en tant qu'étranger pour les élections. Mais il faut dire quand même très vite, hein, quelques années après, c'est-à-dire à partir de 1799, c'était fini, hein. Après, c'était fini jusqu'à aujourd'hui. Donc après, on a eu des débats sur débats sur débats, etc. Juste rappeler quand même, tout à l'heure, tu as dit, Marine, c'est une petite rectification. Le PS le revendique aujourd'hui, mais il n'y a pas que le PS. Donc oui, il y a d'autres partis politiques, mais surtout beaucoup d'associations qui le revendiquent, etc. Bon, la première question par rapport à ça, effectivement, tu as dit quelque chose, je voudrais poser la question à nos invités, hein, peu importe qui répondra en premier, en deuxième, en troisième, peu importe. Mais est-ce que le fait que la gauche, le Parti Socialiste notamment, et la majorité au Sénat, est-ce que c'est ça qui a poussé peut-être le Hollande à mettre parmi ces 60 propositions le droit de vote des étrangers aux élections locales ?
Ça fait partie du paysage qui était celui de la campagne électorale durant les élections présidentielles. C'est un point de débat qui a été systématiquement évoqué, y compris dans les débats sur les médias, par les différents partis. Et on a vu un petit peu des positionnements de partis politiques, qu'il s'agisse du PS, des Verts, y compris du Modem, se prononcer plutôt favorablement en direction de cette option-là, et d'autres partis clairement déclaré qu'il n'en était pas question. Voilà. Encore une fois, le cas de la France n'est pas isolé en Europe, mais il y a quand même sur les 27 États européens, il y en a 13 aujourd'hui, qui permettent ou qui autorisent les étrangers à voter sur leur territoire. Ça concerne tous les résidents étrangers. Alors il y a bien sûr des conditions. Les conditions, c'est disposer d'un titre de séjour et résider sur une période de moins, je veux dire, 1 à 5 ans, voilà. Et il y a des pays qui l'ont accordé, mais sous une condition encore plus restrictive, qui est une forme de réciprocité. Il y en a 3 exactement, c'est l'Espagne, le Portugal et la République tchèque. Voilà. Et tous les autres, ne l'ont pas autorisé, dont la France. Donc aujourd'hui, on est dans un paysage européen qui est relativement, on va dire, disparate, avec effectivement des éléments de débat. Je ne sais pas si que ce soit Frédéric.
D'ailleurs, je voulais juste rajouter que c'est justement notamment lors du traité de Maastricht qu'il y a eu des changements au niveau de ces pays-là et des pays qui déjà permettaient ce vote, notamment la Suède, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas. Et d'autres, comme le Luxembourg, la Belgique, la Lituanie, la Slovénie, qui ont étendu ce droit après le vote de Maastricht, parce que ça soulevait justement des fortes inégalités entre droits des communautaires et droits en dehors de l'Europe, ex-communautaires.
Oui, une réaction, Jean-Claude Parcelier, peut-être une première réaction, ou Frédéric Alphonse Lasti.
Oui, ce que l'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a des situations très disparates au sein d'une même famille, suivant on le voit bien dans nos quartiers de la rive droite. Il y a des jeunes qui ont le droit de vote parce qu'effectivement, ils sont rentrés soit très jeunes en France et ont pu choisir la nationalité, soit effectivement, ils ont été, étant issus de familles étrangères, ils ont pu faire le choix au moment de la majorité. Et puis, ils voient leurs parents qui sont là depuis plus longtemps et qui, eux, n'ont toujours pas le droit de vote, alors que c'est eux qui contribuent par leurs impôts, par leur participation à la vie sociale, par exemple, plus à la citoyenneté et à la vie de la cité. Donc c'est vrai qu'il y a des faits comme cela qui nous ont toujours choqués, et c'est aussi une des raisons du combat qu'on a mené, nous, sur la rive droite, pour promouvoir le droit de vote.
Votre remarque est très intéressante, parce que si on peut élargir, y compris sur les titres de séjour, dans la même famille, on va trouver celui qui a la carte de résident,
oui,
celui qui a la carte vie privée familiale d'une année, celui qui est dans la clandestinité, entre guillemets, et ainsi de suite. Y compris sur les titres de séjour, on a ces disparités. Bon, bien sûr. Bon, Frédéric Alphonse.
Oui, enfin, moi, en préambule, je dirais que c'était aborder l'immigration sous son côté le plus facile quand on prend les manettes d'un pays. Quoi. Je veux dire, le droit de vote, c'est pas généraliser la carte de 10 ans, ce que je disais tout à l'heure avant le débat. Ça me paraît beaucoup plus compliqué à affirmer, et c'est pour ça que c'est pas fait du reste. Hein. Et en même temps, le droit de vote, ça avait été promis en 81, comme vous l'avez rappelé, et ça n'a pas été fait, alors pour différentes raisons, hein, peu importe. Mais c'est vrai que ça pose quand même problème dans ce pays qui se dit le pays des droits de l'homme, de la liberté, qui sans arrêt demande à l'étranger, et lui répète qu'il a des droits, mais aussi des devoirs. En fait, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a beaucoup plus de devoirs que de droits. Quand on est étranger. Et finalement, on en arrive à des disparités où, effectivement, dans une famille, on peut avoir trois générations avec des situations complètement différentes, avec les plus anciens qui n'ont quasiment pas de droit quand ils sont ici, si ce n'est celui de séjourner et de dépenser de l'argent, et ceux qui sont nés ici ou qui sont arrivés très jeunes, effectivement, qui ont les mêmes droits que vous et moi, quoi.
Bon, alors moi, je vais faire l'avocat du diable, parce que ceux qui ne sont pas du tout d'accord pour le droit de vote des étrangers en France disent souvent, mais... ceux qui résident là de façon légale, ils ont qu'à demander la nationalité française, donc devenir citoyen à plein. Bon, je fais l'avocat du diable parce que autour de la table, tout le monde
dit. Ils n'ont qu'à demander la nationalité pour pouvoir voter.
Est-ce que ça te voit, quel regard vous avez sur cette proposition, le fait de, est-ce que c'est compliqué de l'avoir, et en définitive, pourquoi pas, pourquoi ne pas passer par cette voie?
En rappelant peut-être aussi le rôle que vos associations ont et comment vous êtes en contact des personnes étrangères, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien ni l'ASTI, ni la Ligue des droits de l'homme, ni le collectif pour l'égalité des droits.
ASTI qui veut dire Association de solidarité avec les travailleurs immigrés.
Alors, moi, concernant la naturalisation, moi, je trouve assez scandaleux et aux permanences juridiques, je rencontre quand même pas mal de gens qui veulent la naturalisation, non pas parce qu'ils sont devenus français, parce qu'ils ne deviendront jamais français. Je veux dire, un Algérien restera Algérien, un Sénégalais restera Sénégalais, quoi qu'il advienne. Et très souvent, la naturalisation est demandée, non pas pour voter, qui plus est, c'est pour une certaine tranquillité au niveau des papiers, c'est-à-dire ne plus renouveler et avoir tout cet écueil dans les préfectures, au renouvellement ou de l'année ou tous les 5 ans, d'un titre de séjour, quoi. Le droit de vote, c'est pas ce que les étrangers mettent en premier là-dessus. Et je trouve que demander à un étranger de... Enfin, moi, ça me gêne beaucoup. Je leur dis, écoutez, ça ne sert pas à grand-chose de se blanchir.
Ça veut dire, Frédéric Alphonse, qu'ils n'ont pas forcément ce sentiment d'appartenir à une nation, la République.
Enfin, de toutes les manières, je crois qu'on est tous...
Parce que ça pose un problème, ça, le fait. Est-ce qu'une affaire de papier?
Je pense que pour eux, la signification, ce n'est pas le droit de vote avant tout. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est plutôt une tranquillité, une certaine sécurité au niveau du séjour, plus que pour avoir des droits. Alors qu'ensuite, des droits en découlent, c'est très bien. Je pense qu'ils participeront aux élections. Parce qu'effectivement, ils vivent les choses comme nous. Donc ils ont des critiques et effectivement, ils feront des choix sur les futurs élus.
C'est un processus après qui se,
voilà,
qui se construit.
Mais c'est pas ce qu'ils mettent en avant. Et en plus, je trouve assez... Moi, je trouve dramatique de quasiment imposer aux gens la francisation, quoi, ou le blanchiment, comme je dis souvent. Vous n'allez pas renier vos racines, ça ne sert à rien, quoi. Et de toutes les manières, on ne renie pas ses racines. Mais même nous, quand on est
d'une région,
voilà, on revient toujours d'où... Donc, c'est un peu crétin d'exiger d'avoir la nationalité, c'est-à-dire un bout de papier, qui, de plus, est devenu très, très compliqué à obtenir avec les derniers textes. Donc, ça qu'il faut quand même le soulever.
Voilà, donc le fait
c'est quasiment impossible.
On passe par la voie de la naturalisation. C'est peut-être une voie sans issue.
Ça peut être une manière aussi d'exclure.
Ou détourner le problème.
Il ne faut quand même pas, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric, c'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler la question du droit de vote de la situation globale, de l'accueil des étrangers dans un pays. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas et jamais oublier dans ce débat-là, c'est que quand on parle de droit de vote des étrangers aux élections locales, cela suppose quand même qu'ils aient un titre de séjour, donc qu'ils soient régularisés. Or, comme le disait Frédéric, aujourd'hui les conditions de régularisation, et je ne parle même pas de naturalisation à ce stade-là, les conditions de régularisation d'obtention d'un titre de séjour pour les étrangers sont telles que, je dirais, la question du droit de vote pour nombre d'entre eux est une question qui est tout à fait secondaire. Maintenant, supposons que tous les gens qui ont leur titre de séjour, qui sont en France depuis plusieurs années, qui vivent et travaillent ici, qui paient leurs impôts ici, et auxquels on refuse toujours droit de vote, et à qui on oppose éventuellement la question de la nationalité, c'est introduire là, encore une fois, un biais et une forme, je dirais, de discrimination lourde, parce que, à ce moment-là, autant demander aux citoyens européens auxquels on a accordé droit de vote d'acquérir la nationalité française. Et ça voudrait dire quoi, de demander à des étrangers hors Union européenne d'acquérir la nationalité française absolument pour avoir le droit de voter, alors que on s'en passerait volontiers pour d'autres étrangers issus des 27 autres États de l'Union européenne. Donc déjà, là, il y a, si je peux dire, la double ou la triple peine pour ceux auxquels on souhaiterait ouvrir, en ce qui nous concerne, un droit de vote dès lors qu'ils sont, d'une part, en situation régulière, d'autre part, qu'ils vivent et travaillent ici, qu'ils participent à la vie sociale, à la vie associative. Donc ils sont totalement, inclus dans la société, à ceci près, à cette nuance près, qu'ils n'ont pas droit auquel on refuse, simplement le droit de s'exprimer pour ce qui relève, des enjeux de la vie collective qu'autorise l'élection, tout simplement, des élus locaux, par exemple.
Et alors, je voulais spécifier quand même que la proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat ne permet pas aux étrangers ni de devenir maire, ni de participer aux élections sénatoriales en tant que grands électeurs. Ils pourraient en fait être élus conseillers municipaux. Et une loi organique déciderait après des modalités, notamment de la condition de résidence, qui devrait être normalement de 5 ans. Voilà, donc un texte qui n'a pas forcément de grandes chances d'être voté là tout de suite, en tout cas. Et puis ensuite, des amendements qui devraient être adoptés pour que ça puisse retourner à l'Assemblée nationale, etc., etc., et que ça fasse son chemin pour que ça puisse réellement être accepté comme loi. Mais donc, c'est déjà une loi qui ne permet pas les mêmes droits que n'importe quel citoyen français.
Est-ce qu'à votre avis, le fait de dire... est-ce qu'on ne va pas aller dans une forme de discrimination en plein conseil municipal? Imaginez un conseil municipal où vous aurez des conseillers qui peuvent proposer leur candidature pour devenir adjoint ou délégué du maire, etc. Et d'autres conseillers qui ne pourraient pas le faire. Est-ce que... Bon, parce que je vois le problème venir, y compris une fois, si jamais... Bon, on va voir ce que François Hollande et son gouvernement vont décider. Bon, parce qu'on a eu quand même un précédent en 81, bon, ça n'a pas été fait. On va voir, est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Peut-être, il y a de fortes chances, probablement, vu que le Sénat a proposé une loi. Donc, si on est un peu de logique, ça suivra au niveau de l'Assemblée nationale et le reste. Et cette question-là, de se retrouver un jour, avec les restrictions que Marine vient de rappeler, il y a des conseillers qui peuvent avoir des responsabilités et d'autres pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Une fois de plus, c'est traiter l'immigration avec des différentes strates discriminatoires en fonction éventuellement de la nationalité. Parce que tout à l'heure, tu parlais de réciprocité, mais tu n'as pas explicité. Je suppose que quand l'Espagne ou le Portugal donnent le droit de vote, c'est à certains ressortissants de certains pays qui eux-mêmes donnent le droit de vote aux ressortissants espagnols ou portugais dans le pays.
Absolument.
Oui, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que quand même que c'est du donnant-donnant, c'est un peu comme les accords bilatéraux entre les pays africains et la France, en gros. Voilà, t'es gentil avec mes ressortissants et t'empêches les tiens de venir chez moi, et moi je serai gentil avec toi, j'accorderai quelques sucres aux quelques-uns qui arriveront à venir. Et donc ça, c'est une fois de plus, mais alors c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre, y compris avec la gauche, surtout avec la gauche, quelle qu'elle soit, c'est que on rentre dans le jeu de l'exclusion ou du sectarisme, quoi. On va faire encore différentes classes de citoyens. En gros, il y aura des citoyens qui seront à part entière, c'est-à-dire ceux qui ont la carte de nationalité française. Après, il y aura des citoyens de seconde zone qui, eux, pourront voter, mais pas être éligibles en tant que maire et ne pourront pas élire les grands électeurs, enfin ne pourront pas être grands électeurs, et après il y aura ceux qui ne pourront pas voter. Donc enfin on va créer encore une strate, qui me paraît compliqué quoi, en plus à gérer derrière.
Il y a un autre argument qui est souvent évoqué par les opposants, c'est le fait que on risque d'entretenir par ce biais-là des formes de communautarisme.
C'est ce que soulève également Lucie Hugon, on l'écoutera par la suite.
D'accord, mais bon, là-dessus c'est pareil, je dirais. Est-ce que c'est en empêchant des gens de participer à la vie collective, donc qu'on enferme finalement dans une forme d'obligation à se réfugier dans d'autres formes d'action collective, dont les communautarismes précisément, ou est-ce que c'est justement leur donnant le droit de participer pleinement à la vie collective, et y compris au droit de vote, et y compris le fait de pouvoir être élu conseiller municipal dans quelque municipalité que ce soit, où effectivement là ils participent à une vie collective qui relève effectivement de nos valeurs républicaines. Voilà, donc ce choix-là, cet argument-là est tout à fait à contre-productif du point de vue de ceux qui l'opposent. C'est-à-dire qu'en fait, au contraire, le fait de donner le droit de vote aux étrangers leur offre une possibilité, une capacité à participer pleinement à la vie collective d'une collectivité ou d'un territoire où ils sont déjà totalement intégrés d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse par le travail, par la vie sociale, etc. Voilà.
Je voudrais quand même, par rapport à une, bon, là, on parle, on discute des droits de vote aux élections locales. Bon, parce que peut-être, ça concerne pas qu'aux élections locales aussi. Je sais pas comment vous positionnez, parce que il y a d'autres élections.
Alors, c'est également un argument.
Il y avait l'un des arguments qui dit, mais, au motif de payer des impôts, il faut accorder, le droit de vote des étrangers aux élections locales, mais ces mêmes impôts, ils sont payés aussi au niveau national. Donc pourquoi ne pas aussi l'accorder sur des élections à dimension nationale ?
L'ASTI, en tous les cas, est pour le droit de vote tout court des étrangers, sans distinction de classe d'élection. Il faut être clair là-dessus. Quoi.
Oui.
Et effectivement, sans condition non plus d'ancienneté de séjour. Il faut faire des choix, effectivement, où tu votes dans ton pays d'origine, où tu votes dans le pays dans lequel tu as choisi de vivre. Mais voilà, à partir de là...
Enfin, je dirais, c'est pas faute, quand même, depuis maintenant, je dirais, la LDH, avec d'autres collectifs, a mis en place une initiative autour de la votation citoyenne. Ça remonte à 1990. Ça fait jamais que 22 ans, quoi, qu'on essaie d'enfoncer le clou là-dessus. Et régulièrement, on fait, chaque année, il y a un sondage qui est publié avec l'Institut Harris. Donc, le dernier, qui date de 2011, qui a été publié, démontrait que 59% des Français, c'est-à-dire la majorité des Français, étaient plutôt favorables à ce qu'on octroie le droit de vote à ces étrangers.
Aux élections locales.
Aux élections locales, c'est, voilà. Et que, en fait, 39% y étaient opposés. Donc, grosso modo, il semblerait qu'il y ait plutôt, comment dire, une perception plutôt accueillante sur ce type de proposition. Mais, par contre, du côté de la classe politique, ben, ça provoque des cristallisations chez certains.
Et puis on voit, grâce à ces sondages réalisés également, que entre, par exemple, 94 et aujourd'hui, il y a une augmentation de la population favorable à cette proposition. Donc c'est aussi quelque chose qui est amené petit à petit dans le temps, quoi.
Oui, tout
à
fait.
De l'opinion publique.
Oui, c'est quelque chose qui, on va dire, ça fait son chemin. Même si on n'écoute que les médias, les grands médias, les principaux partis politiques, dont certains qui ont présenté leurs candidats aux élections présidentielles et qui vont le faire aux élections législatives. Manifestement, c'est un sujet qui est un sujet absolument tabou, qu'il ne faut pas aborder, ou que si on l'aborde, c'est pour dire non, surtout pas. Je crois qu'il faut dénoncer, les arguments qui sont opposés, qui sont tout à fait, ambigus du point de vue des conditions, y compris si on veut essayer de favoriser un petit peu, la vie sociale sur les territoires, le fait que les gens puissent vivre ensemble de la façon aussi tranquille que possible, qu'il y ait une reconnaissance un petit peu de la diversité, qu'il ne faut jamais oublier, qui est à la France, sociologiquement, historiquement, l'immigration a toujours nourri l'histoire l'histoire démographique et pas que démographique de la France. Donc on avait eu un débat, c'était en décembre dernier, autour de ça. Donc je crois qu'il ne faut jamais oublier ça, il ne faut jamais oublier le fait que accorder le droit de vote à des étrangers aujourd'hui, ça présente quand même au moins trois types d'avantages. Il y a un avantage du point de vue, enfin un intérêt du point de vue purement de la vie démocratique, quoi. Donc cet exercice démocratique, c'est suffisamment, schématisé aujourd'hui Certains proposent même de transformer les élections en forme de sondage. C'est des choses hallucinantes. Hein. Donc je crois que cet exercice démocratique, il est suffisamment important. Aujourd'hui, on le constate, les taux de participation aux élections présidentielles, il faut l'espérer aux élections législatives, ont été quand même importants. Donc il y a quand même une forte appétence du citoyen français, quel qu'il soit aujourd'hui, ceux qui sont en capacité de voter pour aller exercer ce droit démocratique. Et on voit mal pourquoi on refuserait à d'autres personnes qui vivent là depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, la capacité qui leur est donnée de contribuer pleinement à cette vie démocratique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, deuxième avantage, c'est que c'est par ce biais-là aussi qu'on peut favoriser l'intégration et éviter les dérives communautaristes, précisément. Je l'ai dit, je le répète, parce que c'est important. Et le troisième élément, c'est tout simplement en termes, je dirais, de participation à la vie économique, à la vie sociale. Je dirais le fait que les gens soient en capacité d'exprimer leur avis, de donner leur opinion et de voter sur l'orientation des politiques publiques, locales ou pas, je dirais, ou plus large. C'est aussi un sens donné à une reconnaissance, je dirais, de leur capacité à participer pleinement à la vie d'un pays et sur la base des valeurs qui sont celles de la République, encore une fois.
Vous partagez ? Je crois effectivement que ça pourrait être un approfondissement tout à fait bénéfique de la notion de démocratie. On a quand même l'impression que ça permettrait de mettre à jour certaines questions qui sont toujours taboues autour du renouvellement des élites, autour de la lutte contre les discriminations, des choses qui nous tiennent à cœur. Et effectivement, peut-être qu'en donnant la parole aux personnes qui en sont victimes, ça serait une façon quand même de mettre un peu plus à jour toutes ces idées qui sont malheureusement beaucoup passées sous silence et qui concernent pourtant une grande partie de la population présente sur le territoire français.
Et il y avait aussi un argument qui était souvent avancé chez Louloubine, hein, que peut exercer les conseillers municipaux au sein d'une commune. Bon, on a parlé notamment des cantines scolaires, de la viande halal, etc., etc. Bon, on a eu des arguments aussi de ce type. Sachant que mais ceux qui sont pas étrangers et qui sont des nationaux, mais bon, comment vous avez reçu ces arguments les uns les autres, l'ASTI, la Ligue ou le collectif?
C'était clairement stigmatisant. Je crois qu'il y avait l'idée qu'en intégrant des personnes d'autres cultures, on allait du coup oublier les valeurs républicaines, on allait effacer l'histoire de nos institutions et tout cela. Je crois quand même qu'il y a dans ce souci d'intégration que l'on relevait, l'idée aussi qu'on a des valeurs et qui seront à partager avec tous et non plus uniquement avec des nationaux.
Vous vous rappelez du débat du deuxième tour entre le président actuel, étant encore candidat, et le candidat sortant Nicolas Sarkozy sur cette question, justement, où il y avait François Hollande qui disait « Mais je ne permettrai jamais la viande halal, etc. » C'était un peu décousu comme argument de part et d'autre sur cette question, justement, la place pleine et à part entière de... si jamais la loi est votée, des élus issus de l'immigration, des étrangers, quoi.
Je crois que c'est une façon, là, je dirais, c'est purement de la récupération d'un fait à des fins électoralistes pour grappiller sur une certaine partie de l'électorat chez certains types de candidats. Donc ça a été effectivement véhiculé, y compris par l'UMP, etc. Je crois qu'encore une fois, si on continue à prendre les petits bouts de la lorgnette après les petits bouts de la lorgnette, on va créer des formes de cristallisation sans avoir une lisibilité suffisamment large de la réalité de ce problème et des enjeux qui se posent autour, primo, de l'immigration. Parce que quoi qu'on en dise, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou d'un autre pays, la France, je vois mal comment on peut raisonner le développement de ce continent et de ce pays, si on fait abstraction totale de ce que représente et de ce qu'a représenté l'immigration. Donc, évoquer des espèces de montées en épingle, des espèces d'histoires du style, la viande halal ou la viande cachère à la rigueur dans les cantines, surtout pas parce que c'est porter atteinte à l'intégrité de l'école républicaine, à ses valeurs ou aux valeurs de la République ou à une forme de culture. On a parlé, certains ministres ont parlé de civilisation, souvenez-vous. Je dirais que cette menace-là, à mon avis, évacue d'autres types de formes de standardisation, au contraire. Moi, je ne sais pas, mais à ce moment-là, autant dénoncer et dire tous les McDo sont illégaux, puisque effectivement, là aussi, c'est une forme d'atteinte à la tradition, je dirais, gastronomique française. Quoi. Je dirais, si on va par là, continuons sur ce chemin-là et allons-y franco, mais à ce moment-là, on va en trouver des terrains. Donc non, je crois qu'il faut reconnaître, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir travailler dans cette espèce de d'échange multiculturel et de pouvoir se nourrir des différences des autres. Et je crois que la République française gagnerait en reconnaissant qu'elle est diverse, qu'elle est plurielle dans les origines de ceux qui la composent, dans leurs opinions, et que effectivement le vrai travail d'une démocratie, c'est de pouvoir faire vivre ensemble des gens qui sont divers et ne pas essayer de standardiser à tout craint les formes ou d'exclure des gens tout simplement parce qu'ils présentent quelques différences. Donc je crois que cette capacité à s'ouvrir à l'autre et à dialoguer avec l'autre est vraiment le vrai travail, je dirais, d'une démocratie digne de ce nom.
On retombe toujours dans cette idée de peur de l'autre, etc., et de peur, et vous le disiez tout à l'heure, par exemple, d'une montée de vote communautariste. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire exactement, ça?
Avant, pour rester sur votre intervention juste avant, mais quand on a aussi entendu souvent que c'est toujours été agité par la gauche, notamment le Parti Socialiste, François Mitterrand à l'époque, c'est le chiffon rouge, machin, pour un peu exciter le Front National, pour casser un peu la droite. Il y avait ça aussi de l'autre côté, hein, qui était avancé. Vous avez parlé de l'UMP, bien sûr, que avion d'Alal, tout ça, bon, il y a sûrement des amalgames, de la caricature, mais de l'autre côté aussi, il y a une opinion, un discours qui dit que la gauche aussi a profité, entre guillemets, du droit de vote des étrangers pour affaiblir la droite.
On a vu la droite reprendre.
Et finalement, bon, ça n'a pas eu lieu, le vote des étrangers. Bon, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va continuer encore à être agité toujours, bon.
Enfin bon, en nuançant, en disant quand même qu'il y a plusieurs personnes de droite, notamment Nicolas Sarkozy d'ailleurs, avant qu'il soit président, qui s'était positionné en faveur du vote des étrangers.
Mais là-dessus, là, le fait d'utiliser ça comme argument électoral, Frédéric Alphonse, vous qui avez suivi un peu toute cette histoire.
Quand même, non, mais enfin, bon, électoralement parlant, effectivement, c'est peut-être donner du grain à moudre au Front National et à l'extrême droite de manière générale, quoi, quand on soulève ce genre d'argument. Puisque c'est eux que ça fait bondir en premier. Ensuite, pour ne pas m'étendre là-dessus, ils chipoteront toujours. Quand on me parle de communautarisme, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est qu'un conseil municipal soit composé uniquement d'étrangers. Mais ça voudra dire qu'effectivement, les étrangers sont majoritaires dans un endroit et qu'ils ont élu leurs compatriotes parce qu'ils se comprennent mieux. Mais je veux dire, on fait la même chose. Je veux dire, à Codéran, il n'y a pas d'étrangers au conseil municipal et il n'y en aura pas demain. Donc, c'est pas... Enfin, et en plus, quand on parle de communautarisme, je crois que les étrangers, c'est 4 millions. Et c'est pas 4 millions d'électeurs. Hein, je parle de ceux qui ont des cartes de séjour. Je parle pas de... Donc, je veux dire, avant que ce soit les étrangers qui aient toutes les manettes et qui nous envahissent, comme on le craint a priori, ou qui nous dominent, je ne sais quoi, mais c'est du délire, quoi. C'est vraiment un argument qui tient pas la route. Ensuite, quant à la viande, quand même, il me semble qu'il y a des services publics, notamment à l'hôpital, où on tient compte, notamment, de la religion des gens pour leur préparer les repas. Et je trouve pas ça complètement aberrant.
On tient compte des régimes aussi.
On tient compte des régimes, je veux dire. Oui, donc, quelque part, qu'on l'impose pas.
Là, un statut, que ce soit un service public, il y a un statut un peu à part.
Qu'on n'impose pas à tout le monde de manger cachère, halal, tout ce que tu veux, ok. Mais qu'on tienne compte de certaines spécificités à certains moments, moi, ça me dérange pas. Après, il faut voir comment on peut le mettre en œuvre. Mais le tout étant de pas imposer ce que le voisin a dans son assiette, quoi. Mais
non, je crois que effectivement derrière ça, le débat qu'il y avait en sous-main quelque part, c'est le débat entre soit on laisse rentrer au sein d'une école publique laïque des valeurs qui relèvent plus ou moins de tradition religieuse, et auquel cas ça pose problème, mais à ce moment-là, il ne faut pas non plus déclarer, à l'occasion de certains discours, que, par exemple, il est... comment dire, que les curés sont de meilleurs enseignants que les profs, quoi. Voilà. Donc là, il faut être, voilà, il faut pas manier ce double langage. Et donc quelque part, que l'école républicaine garantisse un enseignement laïque, bon, dans sa plénitude, on va dire, ça peut se comprendre. Après, qu'à la cantine, pour des raisons qui tiennent aussi, je dirais, à des formes, tu le disais, il y a des régimes alimentaires, il y a des allergies, il y a des choses comme ça. Ben, il faut pouvoir autant que possible les prendre en considération. Voilà. Et ensuite, je dirais que dans les écoles, compte tenu de la qualité des menus servis, et qui sont souvent un petit peu moyens, on va dire, et ça progresse fort heureusement de nos jours, il y a des choses qui évoluent positivement, le fait de découvrir autant que possible les cuisines ou les traditions gastronomiques des gens ou des gamins qui participent aussi à la vie scolaire, etc., c'est aussi un enrichissement, c'est aussi une découverte de l'autre dans des aspects qui sont des aspects liés à la vie de tous les jours. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus diaboliser forcément ce qui n'a pas à l'être, quoi.
Non, mais cela dit, bon, Frédéric Alphonse, que, par rapport à votre réponse, François Hollande, président actuel de la République française, a dit clairement pendant la campagne, je ne permettrai jamais la viande halal dans l'école publique. Je ne sais pas si vous avez entendu la même chose que moi, mais il l'a dit clairement.
Ouais, mais moi j'ai mangé beaucoup à la cantine.
Alors, en parlant d'hôpital,
il y a longtemps. Il y a
l'hôpital, c'est vrai que l'hôpital a un statut un peu différent.
Mais j'avais du poisson tous les vendredis.
Hospitalière par rapport aux autres services.
J'avais du poisson tous les vendredis à la cantine. Alors oui. Actuellement, je ne mange plus à la cantine, certes. Je ne sais pas comment ça se passe dans les cantines, mais je suis désolé, mais il y a quand même un certain Roland là.
De tradition religieuse.
Servir de la viande halal ou des menus différenciés, ça permet peut-être aussi d'éviter que, mais quand il y a du porc, on donne toujours au même un œuf, ou on donne toujours, et que du coup on marque bien la différence effectivement entre ceux qui mangent pas comme les autres, et sans forcément l'expliquer, sans forcément qu'il y ait cet effort un peu pédagogique de découverte des cultures. Ça, c'est peut-être dommage. C'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup de cantines où il n'y a pas de différenciation, et où effectivement, mais certains jours, il y a des enfants qui ne mangent pas parce que dans leur culture, on ne consomme pas tel ou tel produit.
Maril, peut-être.
Non, pardon. Simplement pour dire que c'est un peu un symbole, effectivement, cette thématique du halal ou pas halal, du côté très très peu flexible qu'a aujourd'hui la loi, mais en tout cas le service public en général, en question d'interculturalité, de mélange des cultures, etc. Côté très très rigide.
En plus, à mon avis, je pense que c'est rigide uniquement en théorie, parce que dans la pratique, je suppose qu'il y a plein de choses qui se font dont on n'est pas au courant, et il y a des arrangements sans problème. Parce que, alors effectivement, il y a des gamins qui ne mangent pas, parce qu'il y a des municipalités qui ont quelques difficultés, a priori. Mais ce n'est pas forcément des difficultés d'ordre idéologique, c'est plutôt des difficultés d'ordre financier, technique.
Oui, ce que vous dites, Frédéric, dans la pratique, effectivement, voilà. On a des retours que nous avons, c'est que dans la pratique, les gamins qui mangent halal, bon, on leur propose autre chose, soit du poisson, soit il y a toujours une alternative. Hein, et effectivement, ce qui se passe pratiquement. Mais bon, après, c'est pas dit qu'il y aura halal ou pas halal. Hein, les choses sont assez bloquées, on va dire, pour le moment là-dessus. Mais cela dit, quand même, vous trouvez pas que la citoyenneté prend un coup en la ramenant à ces petites questions? Comment vous sentez ce débat quand même? De ramener la citoyenneté, le droit de vote, la République, les valeurs républicaines, à une question de viande halal, pas halal.
Je crois que c'est un discours qu'on a hélas trop entendu au cours des dernières années. C'est un discours qui tend à la stigmatisation d'une partie de la population vivant en France, qu'on prend, qu'on a pris comme bouc émissaire à un moment donné, pour faire avaler d'autres pilules, parce que effectivement, je dirais, on aura beau triturer les chiffres, on aura du mal à prouver que c'est à cause de l'immigration que la crise est là. Hein ? Il y a bien d'autres facteurs qui prouvent aujourd'hui que la crise économique, c'est pas les immigrés qui la déclenchent et qui l'entretiennent, ça vient bien d'ailleurs. Donc il faut pas se tromper, y compris dans ce débat-là, je dirais, de sujets ni de thèmes quand on parle, je dirais, des problèmes liés à l'immigration. Voilà. Donc la citoyenneté là-dedans, Si on veut éviter que les gens qui vivent ici, qui se sentent exclus, se réfugient précisément dans des formes de communautarisme parfois extrêmes, bah, il faut absolument faire en sorte qu'ils soient intégrés pleinement à la vie économique, sociale et démocratique de la cité, c'est-à-dire leur octroyer le droit de vote, qui est une reconnaissance de leur présence ici et de ce qu'ils apportent au développement du territoire ou des territoires en France.
Alors il y a eu des initiatives, notamment dans des villes où la majorité de la population est une population étrangère, justement, qui pose le problème de la représentativité du maire par rapport aux habitants de sa commune. Et il y a eu plusieurs initiatives de la part de certaines municipalités, et notamment de demander par référendum aux habitants de s'exprimer sur tel ou tel point qui a avancé pour la vie locale. C'est-à-dire que voilà, on décide de former telle ou telle chose dans la vie locale et on demande aux étrangers par référendum de s'exprimer sur cette question. Alors ça reste encore assez rare, mais il y a eu notamment Le Blanc-Ménil, Bondy, La Courneuve, Aubervilliers qui ont fait ces démarches-là avec à chaque fois un résultat assez positif. Mais bon, pour autant, ça reste assez rare. Vous, ça vous semble des initiatives qui vont dans un certain sens, ou est-ce que ça légitime pas aussi, ou est-ce qu'on ne dit pas à ce moment-là d'accord au fait que
ça va à l'encontre du droit de vote. Hein.
Le droit de vote, défaut, voilà.
Ben, c'est par défaut, faute qu'il y ait aujourd'hui une possibilité légale d'autoriser le droit de vote des étrangers, ben, certains élus qui sont conscients des difficultés compte tenu de la composition sociologique et celle de leur commune, ben, en viennent à ce genre de démarches. Qui sont plutôt des démarches en soi positives, puisqu'elles essaient de recueillir un petit peu l'assentiment d'une partie de la population qui ne peut pas l'exprimer autrement, sur des projets qui relèvent du développement local,
qui les concernent.
Donc, voilà, qui les concernent au quotidien. Voilà, mais c'est, encore une fois, ce sont des démarches par défaut. C'est-à-dire que si les étrangers avaient pleinement la possibilité de participer, de voter, en particulier aux élections locales, bah, je crois qu'on n'en arriverait pas à... en soi, elles ne sont pas critiquables, loin de là, mais ça traduit quand même une certaine forme, je dirais, d'ambiguïté, en tout le moins, dans, je dirais, la vie démocratique de notre pays.
Oui. Mais est-ce qu'on ne donne pas un argument en face qui dirait, bon, bah, vous voyez, ça marche, on peut aussi faire des référendums, ça marche aussi par cette manière-là, c'est pas la peine non plus d'accorder le droit de vote.
Mais c'est quand même plus simple d'accorder le droit de vote et basta plutôt que d'encadrer un référendum avec un certain nombre de gens qui demandent une pop... parce qu'on le voit venir avec des gros sabots, ça va être il me faut tant de pourcentage d'immigrés pour envisager d'avoir, enfin bon, on s'en sort pas quoi. Autant faire les choses simplement plutôt que des usines à gaz comme d'habitude. Je voulais revenir sur la citoyenneté quand même, parce que effectivement d'une part on en fait des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire qu'on leur dit qu'ils ont beaucoup de devoirs et pas beaucoup de droits. Et parallèlement, on a mis en place un contrat d'accueil et d'intégration qu'on fait signer à tous qui arrivent et à ceux qui renouvellent leur papier actuellement, où on leur apprend gentiment le président de la République, il est élu par tous les Français, nani nana, le conseil municipal, on leur apprend toutes les institutions françaises, et à côté de ça, on leur permet pas d'y participer. Donc c'est quand même un peu antinomique. Et pour le communautarisme, il faut avouer que la nature ayant peur du vide... À partir du moment où on ne le prend pas en compte et qu'ils ont l'impression d'être délaissés, quelle que soit la communauté et le pays d'origine, et de ne pas être entendus, effectivement, celui qui va aboyer à côté en lui disant « moi, je vais t'apporter ce que l'autre ne te proposera jamais », eh bien, enfin, je veux dire, c'est humain, ce genre de réflexe. Mmh. Et quant au clientélisme, on en est tous victimes, quoi. Je veux dire, quel est le Français qui ne va pas voir son député pour avoir quelque chose pour lui ? Ou son voisin, ou son copain.
Oui, l'histoire des lobbies communautaires. Là aussi, je dirais que c'est un faux problème, parce que les lobbies, ils s'exercent de toute façon venant de toute composante de la société.
Ils sont communautaires,
vers
ils sont industriels, ils sont...
Voilà, voilà.
Et
voilà.
Ils sont ruraux, ils sont urbains, il y a différentes formes pas, de lobbies. Hein.
Oui,
ils ne sont pas que communautaires. Hein,
voilà, exactement.
Mais je ne sais pas si vous avez vu un reportage, c'était pendant la période électorale, enfin pour les présidentielles, on est toujours en période électorale quand même, bon, parce qu'il y a encore législative. Je vous rappelle aux éditeurs et auditrices, allez voter le 10 et le 17 pour les législatives. Bon, vous choisissez ce que vous voulez, mais bon, allez-y voter quand même. Donc pendant la période, enfin les élections présidentielles, cette dame-là, qui parce qu'il y a un bureau de vote à côté de chez elle, qui est d'origine maghrébine, qui je ne sais pas si j'ai vu son reportage très touchant, et qui le ramène à manger. C'est bon, on parlait tout à l'heure de la nourriture, soit du couscous, un tagine, et elle a amené ça au permanent du bureau de vote, les assesseurs, les présidents du bureau, etc. Et chaque année, c'était sa manière de participer. C'était... Et puis il y a eu un rapport, le journaliste disait, bon, et alors vous avez voté? Non, mais j'ai pas le droit au vote. Mais à chaque élection, je le ramène à manger. Et j'ai trouvé ça hyper, très fort, c'est très, très touchant, mais bon, voilà, une manière de participer à la citoyenneté, mais aller jusqu'au bout, peut-être, c'est la conséquence logique de...
Oui. Et puis il y a aussi peut-être derrière l'idée qui sous-tend cette démarche, c'est que il y a des peuples qui sont pas prêts pour la démocratie. Alors je crois qu'on a quand même reçu des leçons pendant le printemps arabe, par exemple, où on a vu quand même que il y avait des gens qui n'avaient pas le droit de vote ou qui participaient à des élections truquées et qui se sont fortement mobilisés contre la perpétuation de cette façon de gérer le système politique. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que je pense qu'on a besoin aussi en France un peu d'être revitalisé par cette idée que le droit de vote, c'est bien pour tout le monde et que c'est bien une manière de participer à la politique du pays.
Oui, tu me fais bien de poser cette question. Dire que les peuples ne sont pas prêts à la démocratie, c'est une gabegie. Hein, c'est pas, au nom de quoi on va dire ça? Une formule aussi gigantesque, aussi absurde. On peut la qualifier de plein de choses. La question qui vient par rapport à ça, ce que tu relèves, est-ce que on n'a pas en France une difficulté, soit avouée ou pas avouée, par rapport à ce qu'est la citoyenneté, la vraie, sans revenir à des questions forcément identitaires, de couleur de peau, que tu manges tu viens de tel pays, ou tu es musulman, ou juif, etc. Est-ce que fondamentalement, c'est pas la question de la citoyenneté, la vraie, la républicaine, les valeurs républicaines, qu'on est en face un peu de cette difficulté aujourd'hui en France?
Je crois que la difficulté de la citoyenneté, ouais, effectivement, c'est un concept qui n'est pas qu'un concept, justement, parce que parfois on le manie comme ça, on en parle, bon, c'est bien joli. Je crois que c'est quelque chose qui se construit avant tout. Et c'est jamais un acquis, ça sera jamais un acquis une fois pour toutes. C'est quelque chose qui se construit. Et si on oublie ça, si on oublie aussi les leçons de l'histoire autour de ça, c'est pas en faisant ou en essayant de cantonner dans le silence une partie de la population qu'on fera progresser ni la démocratie, ni, a fortiori, la citoyenneté. Donc si on veut maintenir un système en France qui soit un système démocratique, il faut effectivement faire en sorte que les citoyens puissent exprimer leur citoyenneté en participant pleinement à l'exercice démocratique qui est celui, en premier lieu, du droit de vote.
Alors, il nous reste un peu plus d'une minute si on veut avoir le temps d'écouter la deuxième interview réalisée avec Lucile Hudon, qui résumera un petit peu tout ce qui a été dit là, puisqu'on a abordé également tous ces points-là avec elle. Peut-être parler... Alors, on voit, donc, on parle là de citoyenneté, le droit de vote qui peut être un symbole de la citoyenneté, mais qui n'en est aucun cas... qui n'est pas l'entière citoyenneté, quoi. Alors, pour vous, justement, cet accès à la citoyenneté, il se fait aussi par l'accompagnement au quotidien, et notamment, là, je vois en face de moi le livret concernant la préfecture de Gironde. Ça aussi, ce sont des démarches à faire administratives tous les jours, des démarches citoyennes. Peut-être informer les gens de l'existence de cette parution.
Oui. En fait, c'est des témoignages sur la pratique de la préfecture de la Gironde, qui n'est pas isolée, puisqu'il y a pas mal de préfectures qui pratiquent comme ça, à savoir que... En gros, si on a besoin de rien, on peut y aller à la préfecture, mais si on est étranger et qu'on veut des papiers, c'est surtout pas là qu'il faut aller, en gros. D'où, effectivement, depuis plus d'une année, l'obligation qui est contraire à nos principes, en fait, c'est d'accompagner de plus en plus systématiquement les gens pour obtenir la bonne réponse. Or, effectivement, enfin, l'ASTI, depuis qu'elle a été créée, c'était plutôt dans le sens de rendre les gens autonomes et citoyens et d'arriver à se dépatouiller eux-mêmes sans avoir besoin d'une béquille à chaque fois pour aller défendre ou renouveler ses papiers, quoi. Et du coup, on a fait une marche arrière phénoménale, là, en très peu de temps. Hein, pas en 5 ans, même pas, en 2-3 ans, on est revenu sur des choses qui coulaient de source et on va avoir du mal... Enfin, je le regrette, mais j'ai l'impression qu'on va avoir du mal à revenir à quelque chose de plus simple et où, effectivement, l'étranger sera considéré en tant que personne apportant quelque chose et non pas comme un emmerdeur qui vient faire chier le monde. Quoi.
Ou un fraudeur, ou quelqu'un qui veut profiter des aides sociales, ou qui veut se marier pour avoir des papiers. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours cette suspicion, et on le sent très fort au guichet de la préfecture, effectivement, où parfois même ça va jusqu'à ne pas respecter les textes légaux dans les réponses qui sont faites, les procédures et tout cela. Et
effectivement, quelque chose qui est beau à dire aussi, c'est que effectivement, l'immigration, contrairement à ce qu'on croit, rapporte plus à la France qu'elle ne coûte. Rapporte, c'est le solde est de plus de 12 milliards d'euros.
Études,
voilà.
Donc, c'est
faux. Sans compter l'apport vers les pays d'origine, qui est monumental aussi. Sans l'apport des communautés en France vers les pays d'origine, ça serait une catastrophe.
Qui est beaucoup plus important que l'aide au développement.
Des dynamiques locales, des apports
Marine,
culturels.
Occasion encore. Georgiana, la régie, une question. On a encore le temps d'une petite question avant le reportage. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une lenteur en France au niveau de l'octroi des droits? Bon, on a parlé au tout début de l'émission, le droit de vote des femmes, 1944. La Révolution française, 1989. Et presque deux siècles après, quoi. Non, c'est ça, mon calcul est bon. Et que, bon, et puis c'est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et puis on voit des pays périphériques, y compris en Europe, et puis ailleurs aussi. Ben parce que, bon, en Afrique aussi, il y a le droit de vote pour les étrangers. J'ai vu tout à l'heure, en regardant mes fiches, au Maroc, il s'oppose à la question. Enfin, le Premier ministre a dit, mais pourquoi pas, ils sont en train d'étudier la question. Pourquoi il y a cette lenteur en France, piller les droits de l'homme, etc.
Assez sur nos lauriers, peut-être.
Mais assez paradoxalement, j'ai l'impression que la France, précisément...
Et pour les femmes, maintenant, c'est les immigrés.
Voilà, le fait d'être le pays des droits de l'homme, d'avoir un principe ou des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, etc. Donc, finalement, on se glorifie, effectivement, de symboles, etc. Sauf qu'effectivement, de là à les mettre concrètement... En application, il y a une certaine inertie. Simplement, je dirais une chose, pour reprendre la parole d'un chef d'État qui est aussi à sa façon un immigré dans son pays, qui est devenu chef d'État récemment, il a dit à un moment donné « Yes, we can ».
Barack Obama.
Et je pense qu'en France, on peut. Donc, s'il fallait simplement dire deux choses, c'est que ces gens-là, ils bossent ici, ils vivent ici, ils restent ici, et donc, ils votent ici.
Dernière question, est-ce que vous y croyez vraiment, l'ASTI, la Ligue, le collectif, en cette proposition de François Hollande, qui vient d'être élu président de la République, est-ce que vous y croyez vraiment
un jour?
Oh ben, il commence par le plus facile, les élections locales.
Avec non, mais déjà les élections locales.
De durée, de présence. Bon, c'est vrai que c'est pas trop difficile. On voit bien qu'en plus, une majorité des Français est prête à l'accepter. Donc, je pense que ça peut arriver. Après, il y aura toujours un débat à mener, effectivement, sur les autres droits et sur le fait que c'est qu'un symbole et qu'il y a derrière tous les autres combats qui sont toujours à mener.
Jean-Claude?
Tous les droits sont des conquêtes. Donc, ça veut dire que, au-delà des paroles, au-delà des discours, on est tenté de lui dire chiche, mais on ne lâchera rien, c'est-à-dire que les candidats qui seront allés élus aux législatives prochaines, les 10 et 17 juin, ben ceux-là, une fois qu'ils seront élus, on ne va pas les lâcher non plus sur cette question-là.
Frédéric Alphonse.
Moi, j'aurais tendance à dire on va attendre et voir. mais ce qui me chagrine, c'est que... Alors, on fait souvent ce parallèle, mais je trouve qu'il est bon. C'est vrai que la peine de mort a été abolie alors qu'une majorité de Français était pour la conserver, et pourtant on l'a abolie. Je veux dire, si on ne met pas comme principe le droit de vote d'un citoyen, je trouve ça un peu dommage.
Sauf que là, il y a une majorité...
Non, mais là, peu importe qu'il y ait une majorité ou non,
Qui est pour.
Oui, mais même, à la limite, ceux qui sont contre, je ne sais pas s'ils ont des arguments qui tiennent la route. Enfin, dire, quel est l'argument qu'on peut opposer pour refuser le droit de vote? Franchement, moi, je ne sais pas, j'en ai pas.
La peur.
Bon, oui. Bon, on passe...
Et on va en parler justement.
On va écouter
tout
le reportage...
Oui. Donc je rappelle, c'est Lucie Hugon et elle est avocate et puis membre de l'Institut de défense des étrangers. Et on vous remercie tout de suite, on va se quitter avec ce reportage. Donc merci à tous d'avoir été avec nous ce soir ou ce matin pour ceux qui nous écoutent en rediffusion.
Donc voilà, merci sur Chantier de la mémoire et qui sera rediffusé lundi à
16h, il me semble.
Voilà. Merci, à 16h.
Et mercredi
lundi
aussi.
Prochain, voilà.
Merci.
Alors, on va se faire aussi un peu l'avocat du diable, puisqu'on aura et on a un plateau constitué de personnes allant plutôt dans le même sens. On voit dans l'hebdomadaire Minute un article du 2 mai 2012, donc très récent, et qui expose donc les raisons pour lesquelles le droit de vote ne devrait pas être accordé aux étrangers. Alors, une des premières propositions qui dit accorder le droit de vote aux élections municipales aux étrangers au motif qu'ils payent des impôts locaux revient à adopter le système de suffrage censitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase ?
Oui, alors c'est une phrase intéressante. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le suffrage censitaire ? C'est un mode d'organisation des élections dans lequel seules les personnes qui payent des impôts peuvent prendre part à l'élection. Voilà, c'est très simple. Alors c'est un système qui a existé en France, hein, et il a été abandonné en 1848. Alors moi, il me semble que l'argument qui est avancé, qui dit on reviendrait à un suffrage censitaire, en fait c'est un argument qui est spécieux, parce qu'il ne s'agit pas de poser comme condition d'inscription sur les listes électorales le critère de paiement d'un impôt local. C'est pas ça qu'on propose. L'idée, en fait, qui est proposée, c'est plus de dire que les ressortissants étrangers qui participent financièrement à la vie locale commune, il paraît absurde de les priver, en fait, du droit de choisir qui gérera l'argent qu'ils payent, quoi, tout simplement. Donc c'est plutôt ça l'argument avancé. C'est pas de faire du paiement de l'impôt local une condition d'inscription sur les listes électorales.
Voilà.
Et en plus, moi, je renverserai même l'argument parce que, à mon sens, il me semble que c'est plutôt l'argument, en fait il y a un argument aussi des détracteurs du droit de vote des étrangers qui dit si les étrangers veulent voter, ils n'ont qu'à devenir français. Voilà, dans le sens, ils n'ont qu'à s'impliquer et faire la démarche de devenir français.
Oui, mais c'est pas si simple.
C'est ça qui revient à adopter un suffrage censitaire, parce que pour se voir naturalisé français, vous le savez, celui qui présente une feuille d'imposition à 0 euro et qui ne justifie pas d'un droit de travail, enfin d'un travail stable, il a très peu de chances de se voir naturalisé français.
D'accord. Alors, une deuxième proposition, une deuxième explication de cette hebdomadaire Minute qui dit « Si le droit de vote aux élections municipales est accordé aux étrangers... » Alors non, oui. « Si le droit de vote aux élections municipales est accordé aux étrangers au motif qu'ils paient des impôts locaux, toujours sur cet argument, il n'y a pas de raison de ne pas leur accorder ce droit pour les autres élections puisqu'ils paient également des impôts nationaux. »
Ben, ma réponse, ce serait pourquoi pas, tout simplement. C'est-à-dire que, oui, alors c'est vrai, bon, plus juridiquement, actuellement, donc vous avez bien compris, c'est l'article 3 de la Constitution française qui empêche les étrangers de voter aux élections nationales.
Alors que dit cet article ?
Ben, cet article, il dit simplement que sont les électeurs, dans des conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes qui jouissent de leurs droits civils et politiques. Donc il y a bien une condition de nationalité pour être électeur en France. Hein. Cette condition, vous avez compris, elle est amoindrie pour les communautaires, hein, puisque déjà on a une exception dans la Constitution. On a révisé la Constitution pour permettre aux communautaires de voter aux élections locales et européennes. Alors pourquoi pas pour les ressortissants hors des pays tiers ? Et ça paraît totalement possible, parce qu'il faut aussi regarder ailleurs autour de nous. On a en Europe, il y a des pays, 12 pays d'ailleurs, qui prévoient le droit de vote de ressortissants étrangers hors communauté européenne, aux scrutins locaux ou à d'autres scrutins. Ils posent généralement une condition de résidence, en fait, de 5 ans. Il y a d'autres pays qui ouvrent, par exemple l'Espagne et le Portugal, eux, ils ouvrent les élections à des ressortissants de leurs anciennes colonies, le Brésil, le Cap-Vert, voilà. Donc il y a plein d'exemples autour de nous. Il n'y a aucune raison de penser qu'on ne pourrait pas, en France, ouvrir le droit de vote aux étrangers hors Union européenne.
Alors d'autres arguments avancés, hein, toujours dans ce même hebdomadaire, concernaient un peu, allaient un peu dans le même sens, en disant que donc les électeurs étrangers, s'ils pouvaient participer aux élections des maires de leur commune, pourraient avoir une influence indirecte sur la composition du Sénat, et qui est donc élu notamment par des maires, ou encore qu'ils pourraient avoir une influence indirecte sur la liste des candidats à l'élection présidentielle, puisque pour être candidat à cette élection, il faut obtenir des parrainages émanant d'une liste de personnalités qui comprend principalement les maires. Donc là, c'est une peur apparemment affichée que les étrangers puissent avoir un droit d'expression sur les dirigeants de l'État.
Tout à fait, voilà. Mais c'est toujours la même question, en fait, qui est posée, de la participation des étrangers à des élections au niveau national. Et ça soulève de nombreux débats. Et en fait, la peur qui se cache derrière ces arguments-là, c'est la peur d'un vote communautariste. là, je suis plus dans le droit, je suis plus dans l'expression politique, c'est-à-dire est-ce que on peut vraiment penser, en stigmatisant les étrangers et en disant, voilà, l'étranger qui va voter, forcément, il va avoir un vote communautaire. Comme je vous le disais, on a des voisins européens qui pratiquent, qui ont ouvert donc les élections et nationales aussi hein, aux ressortissants étrangers. Et pour autant, on n'a pas vu une montée du communautarisme au niveau de la politique nationale de ces pays.
Alors François Mitterrand, en 81, avait parlé hein, de d'inscrire une loi ou en tout cas de formuler une proposition de loi, ce qu'il n'a finalement pas fait. Et il disait notamment en 87 que le pays n'était pas prêt à adopter une telle loi. Quel est votre regard sur la possible acceptation de cette loi aujourd'hui en France ?
Je vais avoir juste un regard de juriste parce que je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue, donc je peux avoir un regard de juriste en vous disant, oui, il y a des pas juridiques qui ont été faits. On a déjà une approbation de l'Assemblée nationale le 8 décembre dernier. Il faudrait d'autres pas juridiques qui permettraient la révision de la Constitution pour ouvrir aux étrangers le droit de vote. Donc il manque le vote d'une assemblée, c'est le Sénat tout simplement, ou alors le vote du peuple par référendum tout simplement.
Si je suis tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il n'y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto ? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne, à faire qu'elle soit pas qu'une escale.